Pour rester informé tout au long de la journée, écoutez Radio Oméga. Radio Oméga. 103.9 Ouaga, 104.7 Bobo-Dioulasso. Radio Oméga, le journal. Les titres de l'actualité. Paul Miki Rwamba.
Mesdames, Messieurs, bonjour à tous et bienvenue à l'écoute de ce journal de la mi-journée sur Radio Oméga. Nous sommes vendredi 22 juillet 2022. Voici les titres de cette édition. Des tirs nourris entendus ce vendredi matin au camp militaire de Kati, à 15 km de Bamako au Mali. Il s'agit d'une attaque djihadiste déjouée par les forces armées maliennes qui présente un bilan provisoire de 2 assaillants neutralisés. En fin de mission dans le Sahel, le commandant de la force Barkhane a fait le point des interventions de cette force française dans les pays du Sahel. Face à la presse hier jeudi en fin de matinée ici à Ouagadougou, le général Laurent Michon a rappelé que toutes les interventions de ces hommes ont été faites à la demande des États. Vous l'entendrez dans ce journal. Lutte contre le terrorisme, le président du Faso était en visite surprise hier jeudi auprès des unités d'intervention de la police nationale du Burkina. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba a invité les éléments de l'UIPPN, de la BAC et de la CRS à plus d'engagement et de combativité dans la lutte contre le terrorisme. Et puis l'armée burkinabé a refait le pont de Naré, dont le dynamitage le 15 juillet dernier avait coupé les villes du Sahel du reste du Burkina. Les travaux de reconstruction ont duré 5 jours. Et le défi reste la surveillance sécuritaire de cet ouvrage de franchissement. Un invité dans cette édition, Désiré Ouédraogo, il est membre du comité interministériel de détermination des prix des hydrocarbures. Il nous apprend que la réglementation Burkina prévoit que les prix des hydrocarbures soient réajustés tous les 3 mois. Il explique aussi le mécanisme de fixation des prix des hydrocarbures au Burkina. Vous l'entendrez en fin d'édition. Et voilà pour les titres de ce journal. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bonjour, bon appétit et bienvenue sur Radio Oméga. Au Mali, le camp militaire Soundiata Keïta de Kati, à seulement 15 km de Bamako, a été attaqué ce vendredi. Très tôt, aux environs de 5 heures du matin, des témoins ont indiqué avoir entendu des explosions accompagnées de tirs nourris. Plus tard, en fin de matinée, l'armée malienne a parlé d'attaques djihadistes repoussées avec à la clé 2 assaillants neutralisés. Bruno Bayala.
L'attaque ce vendredi matin de la caserne militaire de Kati, à 15 km de Bamako, a été vigoureusement repoussée par les forces armées maliennes. Dans une note d'information publiée ce matin, l'armée malienne indique qu'il s'agissait d'une attaque djihadiste à l'aide de 2 véhicules bourrés d'explosifs. Le bilan provisoire fait état de 2 assaillants neutralisés. En fin de matinée, la situation était déjà sous contrôle, toujours selon l'armée malienne qui informe qu'un ratissage est en cours pour rattraper les auteurs de cette attaque et leurs complices. A noter que les premiers coups de feu ont été entendus peu après 5 heures du matin ce vendredi. Et des témoins indiquent que tout a commencé par 2 explosions suivies de tirs nourris dans une partie du camp de Kati, fief de la junte au pouvoir, où sont logés le président Assimi Goïta et son ministre de la Défense. C'est une attaque qui visait expressément la junte au pouvoir, selon des observateurs. Cet incident intervient à un moment où le médiateur de la CEDEAO pour le Mali séjourne à Bamako. Le Nigérian Goodluck Jonathan devrait d'ailleurs rencontrer le président de la junte, Assimi Goïta.
Au Togo, la situation sécuritaire au nord du pays à la frontière avec le Burkina Faso reste encore très préoccupante et mobilise les plus hautes autorités. Mercredi dernier, le président Faure Gnassingbé est allé rencontrer les populations de Dapaon, mais cette visite du président togolais n'a pas réduit les flux des populations qui fuient massivement leurs villages vers des centres urbains plus sécurisés. Et cela en dépit des appels des autorités locales invitant les habitants à rester dans leur village. Cela fait suite à une autre attaque terroriste intervenue dans la nuit du 18 au 19 juillet 2022 qui a coûté la vie à 2 soldats de l'armée togolaise. En Côte d'Ivoire, l'opposition politique et la société civile sont vent debout contre la gestion par les autorités ivoiriennes de l'affaire des 49 soldats arrêtés au Mali. Le PPACI, le parti de Laurent Gbagbo, par son porte-parole, a exigé de la transparence dans cette affaire et l'ouverture d'une enquête parlementaire pour la tirer au clair. De son côté, l'Office ivoirien des droits de l'homme, OIDH, a estimé que les ministres devraient rendre des comptes à la population durant cette période de flottement, selon nos confrères de Radio France Internationale. Lutte contre le terrorisme toujours au Burkina Faso cette fois-ci. Le génie militaire a achevé mercredi les travaux de reconstruction du pont de Naré dans la commune rurale de Tougouri entre Kaya et Dori. Lequel pont, souvenez-vous, avait été saboté par les terroristes le 15 juillet dernier. La ville de Dori et ses environs qui avaient été coupés du reste du pays sont de nouveau accessibles. Le point avec Ibrahim Bayili.
Dynamité le 15 juillet dernier par les groupes armés terroristes, le pont de Naré, situé dans la commune de Tougouri entre Kaya et Dori, a été remis en service par le génie militaire. En effet, le trafic a repris sur cette partie de la Nationale 3 et ce, depuis le 20 juillet dernier. 5 jours, c'est le temps mis par le génie militaire pour l'exécution de ces travaux d'Hercule qui rendent de nouveau accessibles les villes de Dori, Seba et Gorom-Gorom à partir de Kaya. Et c'est la concrétisation d'un engagement qui avait été pris par les forces armées nationales qui, on se souvient, avaient demandé l'accompagnement des populations pour les travaux de réhabilitation de cet ouvrage de franchissement. Les regards sont maintenant tournés vers le pont de Woussé entre Kongoussi et Djibo qui avait également été saboté à la date du 15 juillet. Il restera ensuite à renforcer la surveillance sécuritaire autour de ces ouvrages de grande importance qui ont été à plusieurs reprises dans le viseur des hommes armés visiblement engagés dans un projet d'isolement des villes du Sahel. Et pour cela, les contribution des usagers de ces routes et celles des populations riveraines sont beaucoup attendues.
Et puis, je vous l'annonçais en titre, le chef de l'État, le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba, a effectué une visite surprise hier jeudi auprès des unités d'intervention de la police nationale. Une visite dont l'objectif premier était de porter un message d'encouragement et de combativité à l'endroit des éléments de l'UIPPN, de la BAC et de la CRS engagés dans la lutte contre le terrorisme au Burkina. On en sait plus avec Bernabé Cabré.
L'unité d'intervention polyvalente de la police nationale, la brigade anticriminalité et la compagnie républicaine de sécurité sont des unités impliquées dans la lutte contre le terrorisme. Les éléments de ces trois unités d'intervention ont causé de lourdes pertes aux ennemis depuis le début de la crise. Ils ont également perdu plusieurs camarades. Le chef de l'État a transmis ses encouragements aux hommes tout en les appelant à redoubler d'efforts sur les théâtres d'opération.
La lutte que nous avons engagée depuis plusieurs années, il est temps maintenant qu'on puisse la finir. Sur qui la population compte, c'est sur ses forces de défense et de sécurité. C'est sur sa police, c'est sur l'IUP, c'est sur la BAC et puis c'est sur la CRS. Donc, il faudrait qu'au niveau des forces combattantes de la police, vous puissiez à nouveau repartir avec un bon moral, repartir avec de bonnes énergies.
La cohésion entre ces différentes unités a aussi été abordée par le président du FASO. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba a rappelé que l'ennemi sera mis hors d'état de nuire que s'il y a une cohésion et une solidarité entre forces de défense et de sécurité.
C'est nuisible qu'un de la police qui a son frère, par exemple Béret Rouge, et dans le travail entre la police et Béret Rouge, ça ne va pas. C'est incompréhensible et c'est nuisible que quelqu'un de l'UIP qui a son frère à la BAC ne s'entende pas avec les gens de la BAC. Donc c'est à la fois interne et c'est aussi extérieur.
Il a enfin appelé les policiers à la retenue et à la prudence par rapport à l'utilisation des réseaux sociaux.
On n'a même plus besoin de chercher ou bien de se fatiguer pour connaître la position de telle position BAC ou bien de telle position IP. On n'a plus besoin de savoir quand est-ce la relève, la part ou bien c'est nous-mêmes qui donnons ça. On n'a plus besoin de savoir quel est le bilan de telle attaque ou bien c'est nous-mêmes qui partageons ça. Nous-mêmes, on partage des éléments qui facilitent le travail de l'ennemi, qui démoralisent souvent nos hommes.
Des doléances ont été transmises au chef de l'État. Il s'agit de l'acquisition de matériel plus performant et l'amélioration de la prise en charge des blessés de la police lors des attaques terroristes. Le président du FASO a rassuré que les besoins exprimés seront examinés.
La force Barkhane a pour principe de n'intervenir qu'à la demande des États qui en font la requête. C'est du moins ce qu'a rappelé le général Laurent Michon, le commandant de la force Barkhane en fin de mission dans le Sahel. Face à la presse hier jeudi, il s'est abstenu de donner le nombre de requêtes d'intervention formulées par le Burkina Faso. La conférence de presse s'est aussi penchée sur le dispositif militaire français dans la région. Le point avec Asmaou Daou.
La conférence de presse bilan de fin de mission est allée au-delà de son objet. Elle aura duré 2 heures de temps. Répondant aux préoccupations des journalistes sur l'insécurité, l'ambassadeur de France au Burkina Faso, Luc Alla, déclare que son pays n'offre pas de menu, mais des interventions à la carte. L'intervention militaire se fait sur requête d'intéressés.
Chacun peut effectivement saisir directement, et ça passe pas forcément, et même pas d'ailleurs en général par l'ambassade elle-même, hein, les gens ont une fraternité d'armes et une confiance entre eux qui fait que le commandant des opérations internationales peut s'adresser directement au commandant fort ou à son adjoint en disant « voilà, j'ai besoin de tel ou tel appui » et ça va se régler de la façon la plus fluide ou la plus rapide possible, surtout puisque c'est une question aussi de temps, de timing. Donc voilà, c'est vraiment une chose qui se fait à la carte, donc c'est difficile de dire « voilà, le cadre strict ». Il n'y a pas vraiment de cadre strict, c'est en fonction des besoins tels qu'ils sont exprimés et au fil des semaines ou des mois et des actions qui sont menées sur le terrain.
Intervention sur demande, le Burkina Faso en a-t-il déjà formulé ? Laurent Michon, le commandant de la force Barkhane en fin de mission au Sahel, renvoie la balle aux autorités burkinabées.
Où et combien de sollicitations des forces de défense et de sécurité burkinabées vers Barkhane pour intervenir ? Je ne répondrai pas à cette question. Posez-la aux autorités burkinabées. Nous agissons en soutien de leurs actions. Nous ne nous permettrons pas, ni hier ni demain, de communiquer sur ce qu'ils nous demandent ou ce qu'ils ne nous demandent pas. Ce n'est pas à nous de le dire. Encore une fois, c'est le respect de l'action de ces forces et qui, M. l'ambassadeur l'a décrit et est très bien précisé, qui sont engagées avec des conditions difficiles de sécurité, etc. Je ne répondrai pas à la place de l'état-major des forces armées burkinabées sur quand ou combien de fois nous ont-ils sollicité ou comptent-ils nous solliciter à l'avenir.
Il était aussi question de savoir, au regard d'abominables exactions sur les masses populaires sans défense et au lieu d'attendre un accord préalable d'intervention, est-ce que Barkhane tiendrait compte de la notion de non-assistance de personnes en danger ?
Nous sommes dans un État et un pays souverain par les autorités burkinabées. Nous n'avons pas la responsabilité de porter secours à telle ou telle population à la place des forces de défense et de sécurité ou des forces de sécurité intérieure burkinabées, dont je suis l'action d'ailleurs. Et s'il y a non-assistance à personne en danger, je crois que c'est un peu excessif, peut-être même si je suis bien conscient des souffrances de la population burkinabée, c'est pas nous qui sommes responsables de ça. Il faut vous adresser aux autorités burkinabées qui font ce qu'elles peuvent avec les moyens qu'elles ont. C'est compliqué, c'est pas simple.
C'est une réponse de Luc Alade, ambassadeur de la France au Burkina Faso. Et sur le bilan du retrait de Barkhane au Mali, le général Michon affirme que 4000 conteneurs et 2500 hommes ont déjà replié. Selon lui, c'est un défi logistique qui se fait de façon très correcte, pour reprendre ses termes.
Le gouvernement du Burkina Faso a jugé hier inacceptable les propos de l'ambassadeur de France au Burkina, Luc Alade, des propos tenus à l'occasion de l'audition du groupe d'amitié France-Afrique de l'Ouest. Rappelez-vous, c'était le 5 juillet dernier. Le diplomate français a été reçu en audience par le ministre délégué chargé de la coopération régionale. Il était question de lui signifier clairement. On en sait plus avec Lamine Traoré.
Son Excellence Monsieur Karamogo Jean-Marie Traoré a signifié clairement à l'ambassadeur de France que le Burkina Faso ne partage pas ses propos tenus lors d'une audition du groupe d'amitié France-Afrique de l'Ouest. Selon un communiqué du ministère burkinabé des Affaires étrangères, selon le gouvernement, les diplomates français ont qualifié la situation sécuritaire au Burkina Faso de guerre civile et a minimisé les efforts des forces de défense et de sécurité burkinabé dans la lutte contre le terrorisme. Ces déclarations sont inacceptables, peut-on lire dans le communiqué. Le ministre Traoré a indiqué à l'ambassadeur que le terrorisme est un problème complexe et sous-régional. Il ne peut être réduit en ces termes. Une partie de la population se rebelle contre l'État et cherche à le renverser, rappelant les propos de l'ambassadeur. Le communiqué précise que le Burkina Faso ne s'accommode donc pas de cette analyse erronée et empreinte de jugement de valeur sur la situation sécuritaire. Luc Alade, en réponse, a reconnu que c'est une faute de sa part. Il conçoit que ses propos puissent heurter les sensibilités et dit regretter sincèrement, explique le communiqué. Après ces propos, le diplomate français s'en est pris à certains internautes qu'il a qualifiés d'idiots utiles, qui accusent sans preuve son pays engagé dans la lutte contre le terrorisme au Sahel le 14 juillet dernier lors de la commémoration de la fête nationale française à Ouagadougou. L'ambassadeur Luc Allad a déclaré hier à Ouagadougou défier quiconque de trouver dans ce discours du 14 juillet dernier la moindre trace d'insulte à l'égard des Burkinabés. Je défie quiconque de trouver dans ce discours la moindre trace d'insulte à l'égard des populations. Certains se sont sentis visés. Je n'ai visé personne en particulier. Seulement que les gens doivent prendre du recul. Selon la candidate malheureuse, Luc Allad, ambassadeur de France au Burkina Faso, n'a pas manqué l'occasion de frustrer davantage le peuple burkinabé avec des propos discourtois, orduriers et antidiplomatiques.
Omega Sport.
Sport, athlétisme, le triple sauteur burkinabé Hugues Fabrice Zango est qualifié pour la finale des championnats du monde d'athlétisme après un bond de 17,15 mètres dans la nuit du jeudi à vendredi à Eugene aux États-Unis. Et puis c'est officiel, Sadio Mané a décroché hier soir le titre de joueur africain de l'année. Le Sénégalais est récompensé pour sa belle saison avec les Lions de la Teranga et Liverpool qu'il a quitté en fin de saison. Plusieurs autres distinctions ont été décernées, on en sait plus avec Bernabé Cabri.
Et de deux pour Sadio Mané. Déjà sacré lors de la précédente édition, la recrue du Bayern de Munich a été désignée joueur africain de l'année hier soir à Rabat au Maroc. Le Sénégalais devance les deux autres finalistes, son compatriote Edouard Mendy et son ex-coéquipier à Liverpool, l'Égyptien Mohamed Salah. Cette distinction est des plus logiques pour le footballeur sénégalais, vainqueur de la première CAN de l'histoire de son pays en février au Cameroun et élu meilleur joueur de la compétition. Mané a également transformé le tir au but qui a qualifié son pays pour la Coupe du Monde en mars dernier face au Pharaon d'Égypte, finaliste de la Ligue des Champions, deuxième du championnat anglais, vainqueur de la FA Cup et de la Coupe de la Ligue anglaise. Mané a inscrit 23 buts en 51 matchs, toutes compétitions confondues, lors de sa dernière saison avec Liverpool. Avec ses deux couronnes, le natif de Bambali égale des joueurs comme Didier Drogba, Roger Mila, Mohamed Salah, Wanko Kanu, El Hadj Diouf. À 30 ans, il peut encore viser le record co-détenu par Samuel Eto'o fils et Yaya Touré, tous deux sacrés joueurs africains de l'année à 4 reprises. Dans les autres catégories, Aliou Cissé a obtenu le trophée de meilleur sélectionneur de l'année. Il a mené son pays au premier sacre de son histoire à la CAN et également qualifié les Lions pour la Coupe du Monde 2022. Le Sénégal a aussi eu le prix de meilleur jeune joueur de l'année grâce à Pape Matar Sarr, le joueur de Tottenham. L'équipe du Sénégal est aussi désignée meilleure équipe nationale masculine de l'année. Le titre de meilleur joueur des compétitions interclubs est revenu au portier du Al Ahly, Mohamed El Shenawy. Chez les femmes, la Nigériane Azizat Oshoala est la meilleure joueuse de l'année pour la 5e fois d'affilée et l'entraîneur de l'Afrique du Sud, Désiré Ellis, entraîneur de l'année pour la 3e édition consécutive.
La revue de presse.
Et puis ce sacre de Sadio Mané est apprécié diversement par les confrères Le Pays et Aujourd'hui au Faso. Selon eux, il n'y a pas eu de surprise et c'est bien mérité pour le capitaine des Lions indomptables du Sénégal. Autre sujet, c'est le renvoi du porte-parole de la mission de l'ONU au Mali et aussi l'augmentation du SMIG voulue par le gouvernement. La revue de presse est avec Asmao Dao.
Eh bien, pour ce début de week-end, nous débutons la revue de presse avec le confrère Bobolet. Audits administratifs et financiers, l'Express du Faso se demande si c'est déjà les fruits. Pour lui, si dans les fruits, il se trouve que des gens se sont rendus coupables de comportements délictueux, il faut nécessairement qu'ils rendent compte. On ne peut bâtir durablement le développement d'une nation sur le mensonge et le faux, sur la duperie et le népotisme, estime-t-il. Avec le confrère Le Pays, vous lirez en titre « Relèvement annoncé du SMIG, c'est bien, mais 3 points de suspension ». Puis il couche sa pensée noire sur blanc. Je me demande comment un travailleur peut vivre décemment avec 30 000 francs CFA, surtout par ces temps qui courent où tout ou presque a connu une augmentation. Je trouve que le relèvement du SMIC s'impose et il ne suffit pas seulement de le relever, il faut veiller à ce qu'il soit respecté, prévient le confrère. Selon lui, il y a des entreprises de mauvaise foi qui ne respectent pas les textes. Tout de même, il plaide en faveur des entreprises, des mesures d'accompagnement pour les soulager comme des exonérations ou allègements fiscaux. Puis on se rend à côté de chez nous, au Mali, avec le confrère Le Quotidien qui titre « Expulsion du porte-parole de la mission de l'ONU, le Mali droit dans ses bottes ». Cependant, le confrère demande au pays de Modibo Keïta de jouer à l'apaisement. Quand il écrit, il est alors temps pour les autorités de Bamako de mettre un peu d'eau dans leur vin. Il y va de l'intérêt du Mali et partant de la sous-région, conclut-il. Et du Mali, direction le Sénégal pour parler du sacre de Sadio Mané avec d'abord le confrère Le Pays qui revient. Sacre de Sadio Mané au CAF Awards 2022, la vérité de la pelouse a triomphé, titre-t-il. Et de deux, pour Sadio Mané, sans surprise, le capitaine de l'équipe nationale du Sénégal a été élu joueur africain de l'année au CAF Awards 2022, tenu le 21 juillet à Rabat au Maroc. Et le confrère est admiratif du joueur sénégalais, comme il l'a écrit, au-delà de sa valeur intrinsèque. Le couronnement du natif de Bambili répond aussi à la logique du terrain. Sadio Mané est un beau champion, un beau ballon d'or africain. Le confrère aujourd'hui au Faso et David, il parle de cérémonie de ballon d'or africain 2022, une soirée au goût de Thieb Jen à la sauce Mané. Et c'est sans surprise, fait également remarquer aujourd'hui au Faso, Sadio Mané se succède à lui-même après son premier sacre en 2019, se rappelle-t-il. Le confrère applaudit le lion indomptable. Toutefois, il estime que son cheval est meilleur. Quand il écrit « Si la nomination de Bertrand Traoré ressemblait fort à une offre géopolitique sportive, il nous semble que de jeunes joueurs tels que Dango Ouattara et Issa Kabore, qui symbolisent aujourd'hui l'avenir du football burkinabé, méritent bien des gars. »
L'invité du jour. L'invité du jour.
Eh bien, place à présent à l'invité de cette édition. Il s'agit de Désiré Ouédraogo. Il est membre du comité interministériel de détermination des prix des hydrocarbures. Dans l'entretien qui suit, il nous apprend que la réglementation au Burkina Faso prévoit que les prix des hydrocarbures soient réajustés tous les 3 mois. Il explique aussi en détail le mécanisme de fixation des prix des hydrocarbures au Burkina. Il répond aux questions de Alenta Ouédraogo.
Bonjour Monsieur Ouédraogo. Alors dites-nous, au Burkina Faso, comment se fait la fixation des prix des hydrocarbures?
Il y a deux variables principales qui influencent la fixation des prix au Burkina Faso. Il s'agit du cours du Brent et le cours du dollar, parce que le dollar c'est la monnaie d'achat des hydrocarbures au niveau international. Voilà, ce sont ces deux facteurs qui permettent d'avoir un prix fort d'abord. Et après le prix fort, il y a des petits calculs qui se font pour avoir un prix CAF au niveau international. Pour avoir le produit au Burkina Faso ici, il faut transiter par les dépôts côtiers à l'extérieur, faire le transport et le transit par route ou par train pour amener le produit à Ouagadougou. Et maintenant, d'autres éléments qui interviennent encore, il y a les éléments de fiscalité. Voilà, avant que le produit ne sorte et ne soit mis à la disponibilité du consommateur. Et avant que le consommateur aussi ne prenne ses produits, et le distributeur augmente une marge, sa marge, et le détaillant, qui est le gérant de station généralement, augmente aussi sa marge. Mais il faut dire que tout ce circuit est contrôlé par l'État et les marges sont vraiment contrôlées et fixées.
Au regard de ce que vous nous avez expliqué, dites-nous, à combien devrait-on payer le carburant au Burkina?
Oui, si nous prenons le super, il devrait coûter 1230 francs, 1,11 actuellement, en juillet 2022. Voilà. Ben, avec les efforts de l'État, nous l'avons à 715 francs le litre.
Selon l'arrêté qui encadre la fixation du prix du carburant, cette fixation devrait justement se faire tous les 3 mois. Pourquoi cela n'est pas appliqué au Burkina?
Voilà, donc nous allons poursuivre les efforts dans ce sens pour que les gens comprennent que chaque 3 mois, il faut s'attendre à un changement, à la hausse ou à la baisse aussi également. Du reste, vous avez pu constater sur les périodes passées que quelquefois, chaque fois que c'était possible en tout cas, le gouvernement autorisait des baisses de prix de carburant.
Est-ce que le fait de ne pas respecter la réglementation pourrait justifier la récente hausse du prix du carburant qui va jusqu'à 100 francs CFA sur chaque litre?
Ça peut être une conséquence, oui, parce que quand vous maintenez un prix bloqué pendant une longue période et vous n'êtes plus connecté en fait à la réalité des prix. Voilà. Et pendant qu'au niveau international, les cours ne font que galoper, si vous êtes bloqué pendant un certain temps, quand vous allez vouloir réagir, il faut réagir en tout cas assez fort pour permettre de réduire un tant soit peu le cap de façon significative. Ça peut être ça. Mais il faut dire que aussi, ces dernières années, depuis 2020 et 2022, avec la reprise de l'activité économique au niveau international, après la période de Covid, et puis la crise en Ukraine, les coûts ont commencé à flamber, plus que attendu par les experts, les différents experts en fait. Donc c'est une situation que l'ensemble des pays, c'est pas seulement le Burkina, vit. Voilà, c'est une flambée exceptionnelle et chaque pays essaie de s'organiser pour faire face.
Et voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de cette édition de la mi-journée réalisée par Fidèle Compaoré. Le live Facebook a été assuré par Charles Da. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. L'info continue sur la chaîne de Radio Omega, 103.9 à Ouagadougou, 104.7 à Bobo Dioulasso. Merci de votre constante fidélité.
Radio Omega, l'info en direct.